France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'est un dilemme de taille que je vous soumets aujourd'hui, mais qui, heureusement, ne concerne que 0,00001% de la population mondiale qui a les moyens de s'acheter des rivières de diamants. Comment savoir, en effet, si les diamants qu'ils ont offerts ou reçus, si la parure ou le solitaire qui s'est trouvé sous votre sapin un soir de décembre n'est pas composé de ce qu'on appelle des diamants de sang? Des pierres dont la vente alimente la guerre, des pierres extraites par des enfants, des pierres extraites en détruisant tout l'environnement, des pierres en vérité pleines de sang. Un problème qui ne fait heureusement des nœuds au cerveau qu'à très peu de personnes donc, mais que les diamantaires et marchands de pierres précieuses prennent, eux, très au sérieux. Ainsi propose-t-il de plus en plus de labels pour garantir la traçabilité du minéral et certifier que les pierres ont été extraites en respectant l'environnement et les ouvriers majeurs et bien traités. On ne sait pas exactement à quel niveau d'éthique washing travaillent ces labels, mais c'est déjà un progrès. Tout de suite dans les pieds sur terre, on parle donc de diamants et on vous raconte l'histoire d'un diamantaire qui a plutôt fait le contraire, c'est-à-dire qu'il a investi sa fortune dans une drôle de collection, à la fois éthique et effrayante, et c'est Stéphanie Thomas qui l'a rencontré, une histoire de diamants qui va bien plus loin.
Je m'appelle Arthur Langerman, je suis né à Anvers, le 21 août 1942. Mes parents, donc, nous vivions à Anvers pendant les années de guerre et l'époque des grandes rafles. En 42 et 43, il y a eu des grandes rafles. Ma mère était modiste et mon père avait un atelier de fourrure. Il faisait des vestes en fourrure. Pendant la guerre, c'était, je crois, du lapin ou du renard et des trucs pareils. Et alors, mes parents se sont cachés dans toutes sortes de lieux. Et finalement, ils se sont fait arrêter le 28 mars 1944. Donc mes parents ont été envoyés à Auschwitz. Pendant ce temps, les Allemands m'avaient pris et m'avaient placé dans un endroit ici à Bruxelles qui s'appelle la Pouponnière Castro, où d'autres bébés de mon âge, entre 1 an et 2 ans, étaient prisonniers des Allemands. Il faut dire que si on les avait arrêtés, on nous avait arrêtés en 42-43, j'aurais été envoyé à Auschwitz avec eux et je n'aurais pas été aujourd'hui ici pour vous parler. Il y aurait eu très très peu de chance. Mais en 44 déjà, c'était la fin de la guerre. Les Allemands sentaient bien que c'était fini pour eux. Et des dames importantes, il paraît que la reine Elisabeth de Belgique, leur ont dit, écoutez, si vous envoyez des gens travailler à l'Est, pas besoin que d'envoyer les enfants, gardez-les ici. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc j'ai eu la vie sauve grâce à ça, en fin de compte. Alors mes parents ont été envoyés à Auschwitz. Ma mère avait 25 ans, je crois, et mon père avait 28 ans, je crois. Et donc mon père n'est pas revenu. Et ma mère est revenue brisée de la vie qu'elle a passée. Elle a passé 1 an et demi là-bas, dans plusieurs camps en Allemagne. Alors, ma mère est rentrée. Elle était très pauvre, il ne restait plus rien de l'atelier de mon père, ni de leurs meubles, ni de ce qu'ils avaient, parce qu'il faut savoir que lorsque les Juifs étaient arrêtés pendant la guerre, les Allemands venaient nettoyer l'endroit où ils vivaient et ils étaient aidés par les voisins qui habitaient là. Donc, de l'appartement, il ne restait plus rien. Et donc, ma mère essayait de refaire une vie. Et pour elle, refaire une vie, c'était se marier, se remarier. Et donc, elle a trouvé un homme qui voulait l'épouser, aussi un rescapé de la Shoah. À l'époque, quand les gens se remariaient, c'était toujours avec des gens qui ont eu les mêmes souffrances qu'eux. Ce n'était pas la recherche du bonheur, c'était plutôt une espèce de consolation qu'ils recherchaient l'un à l'autre pour vivre ensemble. Puis on a commencé à vivre ensemble. J'avais 4 ans, je crois. Et ils ont eu un enfant qui est 6 ans plus jeune que moi, mon frère. Et puis le second mari de ma mère est parti en Amérique du Sud. Faut dire, il avait escroqué des gens ici. Il avait vendu des lingots de plomb peints en jaune pour les vendre pour être de l'or. Et donc l'Interpol est venu le chercher et lui s'est enfui en Amérique du Sud pour ne pas être attrapé. En abandonnant la famille en disant « Vous allez me rejoindre plus tard ». Et ma mère n'était pas très chaude pour aller le rejoindre. Et vous pouvez vous imaginer ma mère qui avait déjà souffert tout ce qu'elle a souffert, se retrouvait avec les créanciers qui sonnaient à la porte. Ça, je me souviens très bien. Ils sonnaient à la porte et ils se cachaient derrière la fenêtre pour regarder qui était là, etc. Et à ce moment-là, elle avait un autre bébé aussi. Mais malheureusement, le deuxième mari de ma mère, qui était parti en Argentine, est mort. Comment ? Il a été défenestré ou il s'est suicidé, on ne sait pas quoi exactement. Mais bon, il est mort. Et ma mère ne voulait plus rester à Anvers. Et on est allé vivre à Bruxelles chez sa sœur. Où j'étais à l'école. Mais je ne suis pas resté longtemps dans cette école parce que on m'a vite insulté de sale smos, sale juif. Et donc, j'ai dit ça à ma mère. On a trouvé, il y avait une école juive. Et j'étais alors à l'école juive très religieuse, où ils employaient les anciennes méthodes pour les enfants. Le maître d'école avait une baguette et quand on disait des choses qui n'étaient pas justes, il nous tapait sur les mains avec la baguette. Et finalement, ma mère a trouvé un job de vendeuse dans une pâtisserie et on est revenu à Anvers. Et puis, quand j'ai eu 13 ans, donc c'était en 55, ma mère s'est remariée une troisième fois avec un homme qui était très gentil, un homme aussi à rescapé de la Shoah, qui avait perdu sa femme et ses deux enfants pendant la guerre. C'était la même ambiance, plombée. La Shoah était chez nous dans la maison, hein. Elle était là, tout le temps. En fait, ma mère n'a jamais voulu raconter beaucoup de ses expériences pendant la guerre. Mais lui, il parlait de ça et elle écoutait, etc. À 15 ans, ma mère a dit, voilà, il faut que tu arrêtes tes études et que tu ailles travailler pour emmener un peu d'argent à la famille. Donc, on a choisi le diamant parce que le diamant, à l'époque, c'était le métier où on pouvait le plus facilement gagner sa vie, inverse. Moi, ça, j'aimais pas du tout. Moi, je rêvais d'être architecte. J'étais bon en mathématiques, j'étais bon en dessin. J'aurais aimé, voilà, faire des études universitaires en tout cas. Bon, c'était comme ça, il fallait aider, il fallait travailler. Alors, ma mère a trouvé une lointaine cousine qui était mariée à un diamantaire, qui avait besoin d'un assistant, d'un esclave. Et donc, il me payait la moitié de ce que je pouvais gagner. Il a profité de moi pendant 10 ans. Je faisais tout ce qu'il voulait. Au niveau professionnel, au niveau privé, quand il se disputait avec sa femme, c'est moi qu'on appelait pour les réconcilier, etc. Mais j'ai appris toutes les ficelles du métier de diamantaire. Ça veut dire la fabrication, prendre un diamant brut et en faire un diamant taillé, la comptabilité qui est un peu spéciale, scier les diamants en plusieurs parties, la taille, les formes un peu spéciales, cliver les diamants en plusieurs parties. On cherche dans le métier à avoir les diamants le plus purs possible. Mais beaucoup de pierres ont des défauts. Et cliver les diamants, c'était faire en sorte de pouvoir diviser le diamant en 2, en 3 ou en 4 parties, d'enlever les défauts et pour les rendre plus purs. Un petit coup suffit. Et le diamant se partageait en 2 parties, et ça s'appelait un miroir. C'est beau comme tout, parce que c'est vraiment deux miroirs collés. Mais ça ne réussit que quand on fait l'entaille dans la bonne direction. Si on se trompe de direction, alors on casse la pierre. Et on perd le diamant, ou on le casse beaucoup, et le résultat n'est pas ce qu'on voulait, ce qu'on attendait. Et surtout, ce qui me plaisait, moi, c'était l'achat et la vente. J'ai découvert que j'étais très très bon dans le marchandage, dans la discussion, et ça m'a plu. Et alors, pendant que je travaillais pour lui, j'ai découvert des diamants de couleur, beaucoup plus beaux que les diamants blancs, parce que les diamants blancs, ils sont tous les mêmes. Vous prenez un grand, un petit, un moyen, c'est blanc, ça a un peu d'éclat, c'est beau. Tandis que les diamants de couleur, il y a de toutes les nuances, des diamants jaunes, roses, bleus, verts, champagne, cognac, toutes les boissons, etc. Ça m'a fort intéressé. Et j'ai vu que dans le stock de ses marchandises à lui, on ne vendait jamais les diamants de couleur. Parce que la De Beers, qui était la plus grande société de diamants, avait dit, plus un diamant est blanc, plus il a de la valeur. Donc automatiquement, la publicité payant, les gens cherchaient des diamants blancs, le plus blanc possible. Et tout ce qui était de couleur, on les mettait de côté. Alors, j'ai décidé, à un certain moment, de me lancer là-dedans. Et les quelques économies que j'avais, je les mettais toujours dans les diamants de couleur. Et donc, quand je suis devenu indépendant, vers 25 ans, j'ai commencé, donc c'était 25 ans, 42, c'était 67. J'ai travaillé encore pendant une dizaine d'années dans des diamants blancs, parce que, bon, il fallait gagner sa croûte, hein, il fallait vivre. Et bon, je faisais mon expérience de courtier, de fabricant, d'acheteur, de vendeur, etc., etc. Je me débrouillais un peu bien. Et puis après, j'avais toujours mon cœur qui était attiré par ces diamants de couleur. Et puis, un jour, un courtier est venu et il m'a montré un paquet qu'un importateur de brut avait rassemblé. 7000 carats, tous de couleur. Et il y avait 1000 pierres. C'était un gros lot. Il me demandait, je me souviens, 7 $ par carat. Ça veut dire 50 000 $ pour le lot. Mais je ne possédais pas 50 000 $. J'en avais, en grattant dans tous les coins, je parvenais à trouver 25 000. Alors j'ai dit au type, voilà, je paye maintenant la moitié, les 25 000 $. Et d'ici quelques mois, si ça a bien réussi, j'achèterai l'autre moitié. Et j'ai pris la moitié du lot. J'ai taillé les 3 plus belles pierres du lot, une bleue, une rose, une jaune, et c'est sorti des très belles pierres, et j'ai vendu assez rapidement, et je me suis retrouvé avec 100 000 $. Donc, j'ai gagné une petite fortune, et j'ai directement rappelé le type, et j'ai dit, voilà, je t'achète l'autre partie, et j'ai payé de nouveau des autres 25 000 $. À ce moment-là, ma carrière de diamantaire de couleur a commencé. C'est pas du tout la mode, les gens ne connaissaient pas ça, mais je suis assez convaincant et j'avais des clients. Je leur expliquais que les diamants de couleur, c'est le futur, que les diamants blancs ne vont pas rester éternellement, que les diamants de couleur sont beaucoup plus rares. Il faut trouver dans le sol, dans la terre, il faut trouver 10 000 diamants blancs pour trouver un qui ait de la couleur. Donc c'est extrêmement rare. Et j'avais lu que les grands joailliers, Van Cleef, Arpels, Boucheron, etc., avaient, dans les années 20, fait des bijoux avec des diamants de couleur. Parce qu'ils avaient des clients indiens et russes, et tout ça qui venait des riches américains, qui venaient acheter des diamants. Et puis, j'ai trouvé, par exemple, des joailliers à Paris, de la place Vendôme, qui faisaient des bijoux jaunes, par exemple, et je leur vendais ce qu'ils cherchaient. Il y en a d'autres, je proposais des pierres de toutes sortes de couleurs, Ils les prenaient en commission et ils les montraient à leurs clients. Et parfois, ils en vendaient, etc. C'était pas facile. Mais un jour, on m'a présenté un joaillier londonien qui est venu et qui, lui, travaillait beaucoup avec les Arabes. En 85, 86, 87. Et le sultan du Brunei, qui était l'homme le plus riche au monde à l'époque, lorsque sa fille s'est mariée, il a fait un bouquet de fleurs qui était uniquement en diamant de couleur. C'était magnifique. Donc, ils étaient fort intéressés par ces diamants de couleur. Et donc, le joaillier anglais était un des grands marchands qui allait régulièrement là, en Asie. Et il est venu chez moi au bureau et il a acheté en un coup la moitié de mon stock. Et là, ça a été un grand, grand soulagement pour moi parce que je me trouvais enfin libéré du problème financier. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais eu de problème. C'est allé de plus en plus haut et de plus en plus vite. Il faut dire que les gens, au début, se moquaient de moi parce qu'ils me voyaient acheter des diamants de couleur, des trucs que personne n'achetait. Et ils posaient des questions. Tu gagnes ta vie avec ces drôles de diamants, ces diamants de couleur. Et moi, je disais, non, c'est très dur, je me débrouille pas très bien, mais bon, de temps en temps, je vends une pierre, alors je suis content, nanana. Parce que je voulais pas en faire des concurrents. J'avais trouvé la poule aux œufs d'or. Est-ce que c'est de la chance, ou est-ce que c'est, je sais pas, mais bon, quand même. Disons, dans les affaires, j'ai un flair. Ma mère est morte en 76, donc elle n'a pas vu elle a vu lentement, m'a monté comme ça, doucement. Mais elle était contente que je me débrouillais. Je m'étais marié, j'avais deux enfants. Voilà, elle était contente de ça.
France Culture, les pieds sur terre.
Je n'ai pas que la passion du diamant. Je suis de nature un collectionneur. Donc j'ai commencé tout petit, quand j'étais à Charleroi. Charleroi, c'est près de Marcinelle. Et Marcinelle, il y a les éditions Dupuy. Et moi, je me tournais autour des ouvriers de Dupuy. Je les demandais, est-ce que je peux lire un bouquin, je peux voir. Et petit à petit, ces ouvriers s'habituaient à me voir. Et il y avait des bouquins qu'ils n'avaient pas besoin de garder. Et chaque jour, je glanais comme ça, 2, 3, 5, 10 bandes dessinées. Il y avait Spiro, il y avait Fantasio, il y avait Marsupilami, Lucky Luke et tout. Et moi, ça me passionnait d'avoir des bouquins et de rentrer chaque soir avec un paquet de livres. Et je les ai encore. J'ai actuellement encore, je sais pas, 7000 BD que j'ai donné à mon fils. J'ai même été un héros de BD. Jean Van Am, que j'ai rencontré fortuitement. Je l'ai rencontré dans un train, puis on s'est lié d'amitié. À l'époque, il travaillait pour une grande fabrique d'électricité. Et il me disait qu'il voudrait écrire des scénarios de BD, mais qu'il a peur de ne pas gagner sa vie. Et je lui dis, fais ce que tu veux, fais ta vie, fais ce que tu aimes surtout. Si financièrement tu n'arrives pas, je t'aiderai. Et donc il est devenu le plus grand scénariste de bande dessinée. Je lui ai dit, probablement je ne serai jamais célèbre, alors mets-moi comme personnage de BD. Et donc il a fait dans l'Argo Binch, Business Blues et OPA, ces deux trucs. Et je suis un héros là-dedans, je m'appelle Art Longman. Et je suis un membre du Mossad. Donc, j'ai collectionné les BD. Et puis après, j'ai vu dans un bouquin des montres de Gousset. J'achetais des vieilles montres qui ne fonctionnaient plus. Et j'ai tripoté dedans pour faire en sorte que ça marche. Donc j'ai collectionné ça. Puis j'ai collectionné des Netsuke. Les Netsuke, ce sont des petits boutons, des petites sculptures, pas plus grandes que 2 cm, en ivoire ou en bois. Et c'est pour fermer les kimonos. Puis, en 61, j'allais au puce beaucoup. Et un jour, je suis tombé sur une carte postale horrible. Pas une, je suis tombé sur plusieurs. Il y en avait une qui était une araignée, une grande araignée avec un nez juif, et qui entoure le monde de ses tentacules. Et puis il y a eu un rabbin qui tient un enfant sur ses genoux, et il est en train de sodomiser l'enfant pendant qu'il lit la Bible. Donc c'était vraiment des images qui m'ont vraiment abasourdi, mis hors de moi. Je me suis dit, c'est la banalité du mal, je la trouvais là, dans ce marché, au marché aux puces, à Bruxelles. Et derrière la carte postale, il y a « Nous sommes bien arrivés en voyage, j'espère que tu prépares bien le tien, bisous ». C'était tellement, le texte à l'arrière était tellement banal, et était quelque chose qui ne voulait rien dire. Il faut dire que les caricatures, c'est fait pour se moquer. Mais ces caricatures antisémites, c'est pas fait pour se moquer. C'est fait intentionnellement pour dénigrer tout un peuple et pour l'envoyer à l'abattoir. C'était horrible. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais continuer à acheter ça. Ça m'a tellement touché, tellement fasciné, et ça rentrait parfaitement dans ma physionomie de collectionneur. Collectionner ces cartes postales, c'est comme quand on est piqué par un moustique. Ça gratte. On se met à gratter. Ça soulage. Et puis ça saigne. Eh ben, c'est ça. Voir ces choses-là, ça fait mal. De dire comment l'esprit malade des gens est parvenu à faire un truc pareil. Mais un collectionneur est un malade. Donc je dois être malade quelque part. De toute façon, tous les rescapés de la Shoah, dont je suis, ont eu besoin de psychiatres pour pouvoir s'en sortir. Moi pas. Parce que cette collectionniste que j'ai, probablement, ça m'a sauvé. C'est une thérapie. Ça, c'est une des dernières acquisitions que j'ai faites. Ça a 8 mètres de long. Et c'est une espèce de Bible antisémite. Et ça raconte l'histoire des Juifs en Égypte, mais d'une manière négative. Ça date après la Première Guerre mondiale. Ici, vous voyez les Égyptiens qui traversent la mer morte, qui se font noyer. Et ici, vous avez un texte. Gardez-vous bien de garder un juif qui veut s'en aller. Au début, j'allais partout, j'allais à toutes les foires. J'étais à Francfort, j'étais en Pologne, j'étais en Russie, j'étais partout. J'allais, je voyageais. J'allais directement chez les antiquaires et je cherchais des trucs antisémites et j'en ai trouvé tout plein. Et puis après, il y a eu l'Internet. Et là, c'était beaucoup plus facile. On va sur eBay et on demande, on fait sa demande, on recherche, etc. Et là, j'ai trouvé beaucoup de trucs. Et ce qui est formidable pour le vendeur, c'est qu'il peut rester anonyme. Parce que très souvent, les gens étaient gênés de vendre des trucs pareils, de faire de l'argent avec des trucs pareils. En tout cas, c'est devenu de plus en plus cher avec le temps. Aujourd'hui, je paye 4 fois ce que je payais dans le temps. Les prix ont fait augmenter. Quand on achète une carte postale antisémite, ça commence à 50, mais ça va jusqu'à 1000. Je crois que j'ai la plus grande collection au monde. J'ai environ 10 000 pièces. Donc, quand j'ai eu 70 ans, je me suis dit, il faut faire quelque chose avec cette collection. Je ne peux pas la garder comme ça, pour moi tout seul, parce que ma famille et mes amis me disaient, mais c'est fou, c'est dégoûtant, ce que tu collectionnes là. C'est pas possible d'être juif et collectionner toutes ces cartes antisémites. Et alors, j'ai rencontré un jeune Allemand qui était fort intéressé et qui s'y connaissait dans les dessins antisémites. Il est venu loger chez moi pendant pendant 3 semaines et il a regardé toute ma collection, tout, de A jusqu'à Z. Et puis il m'a dit qu'il travaillait avec un institut de recherche sur l'antisémitisme à Berlin. Et puis, une ou deux années après, j'ai été invité à une grande réunion plénière de cet institut. On parlait, tout le monde parlait de ce qu'il faisait. Et puis, on m'a donné la parole. Et j'ai dit, voilà, si vous incorporez mon nom dans la collection et qu'on fasse un espèce de musée qui porte mon nom, je fais la donation de 10 000 pièces au musée. Et directement, ils ont accepté. Et le maire de Berlin m'a donné un bâtiment. Et voilà. À Berlin, j'ai un musée qui s'appelle Alava, Arthur Langermann. Et c'est là qu'ils vont faire leurs recherches sur l'antisémitisme. Mais avec mes 10 000 pièces, je crois que je suis loin du compte. Il doit y avoir 50 000 pièces antisémites dans le monde. Et les pays qui avaient le plus de dessins antisémites, c'était la France, d'abord, avec l'affaire Dreyfus, etc. L'Allemagne. Et plus on va à l'Est, plus ça devient virulent. Et c'est marrant que les pays anglo-saxons, l'Angleterre, l'Amérique, ils ont leur antisémitisme, mais c'est beaucoup plus doux. On se moque du marchand, du tailleur, on se moque on se moque du juif en général. Tandis que la France et l'Allemagne, on montre comment on passe des juifs à la moulinette, des trucs horribles, horribles, vous pouvez pas vous imaginer. Ma mission, ici, sur Terre, aujourd'hui, c'est de renseigner les gens, de leur montrer ce qu'il y a eu pendant la guerre.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nay, 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 nay. I'm ready, my lord.
C'était Le Diamantaire, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Éric Lancien avec un coup de main de Jean-Christophe Francis et diffusé pour la première fois en décembre 2024. Merci bien sûr à notre ami Diamantaire, à José Alain Fralon et à Myrto Grécos. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Adèle Toquet.
We kill the flame. Lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hey, nay, 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 nay. I'm ready, my lord. Crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker? We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker.
nay, nay, nay.